Brexit.
As the nation hands us this historic mandate, we must rise to the challenge and to the level of expectations. That is what we will now do. Let's go out and get on with it. Let's unite this country. Let's get Brexit done. But first, my friends, let's get breakfast done too. Thank you all.
Europa Voice numéro 39, Let's Get Breakfast Done, par les mots de Boris Johnson. Let's Get This Europa Voice Podcast Done aussi avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a vécu un moment presque historique, en tout cas dans l'histoire britannique, l'histoire européenne. Le Brexit Done, c'était le leitmotiv des conservatives et de Boris Johnson. Ils ont gagné l'élection presque haut la main.
Oui, alors effectivement, Christophe, pour rappeler quelques chiffres sur les résultats définitifs de ces élections britanniques, donc les conservatives obtiennent 365 sièges, qui est un record historique.
Plus belle victoire, j'ai lu cette statistique, plus belle victoire depuis la fin des années 80 et surtout le gouvernement de Thatcher numéro 3. Donc ça veut dire que déjà il y a pas mal d'eau qui est passée sous les ponts, mais ça veut dire qu'on revient à une personne qui était très forte personnalité, qui a laissé une empreinte dans l'histoire britannique. Est-ce que c'est aujourd'hui une victoire aussi forte que celle-là, que celle de Tony Blair à l'époque aussi, quand il y a eu cette vague rouge, entre guillemets, rouge britannique, Tony Blair, il y a des marqueurs comme ça dans l'histoire du Parlement britannique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une victoire comme celle-là?
Les deux marqueurs de ce chiffre, de ces 365 sièges obtenus, c'est un score inégalé depuis plus de 30 ans, ce qui, à l'échelle politique,
est énorme.
Et effectivement, c'est peut-être la figure, l'autre marqueur important, c'est que c'est la figure de droite conservative qui s'impose le plus nettement au Royaume-Uni ces dernières années avec ce score gargantuesque. Donc effectivement, c'est un moment historique à la fois pour le pays, mais aussi pour les conservatives, parce qu'il y a cette majorité absolue de quasiment 40 sièges, de 39 sièges à Westminster, et aussi parce que pour contrebalancer avec ça, il y a le score résiduel, j'utilise le mot résiduel, des Labour, de 203 sièges, qui est un score, lui, non pas historiquement bas depuis 30 ans, mais depuis de plus de 70 ans.
1935. Alors, c'est un autre siècle, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, si 30 ans en politique, c'est un gouffre... 1935, c'est une planète derrière.
Oui, et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Boris Johnson, il a les mains libres, et on va en parler sûrement dans quelques instants, pour maintenant mettre en œuvre le...
Vous croyez qu'on va en parler ?
Le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et que de l'autre côté, c'est la fin de l'ère Corbyn, c'est la remise en cause de la gauche radicale, parce qu'il faut le rappeler pour nos électeurs, le pari de Jeremy Corbyn, c'est véritablement une gauche radicale, plus qu'une gauche de gouvernement, ou plus en tout cas qu'une gauche social-démocrate, et c'est la fin de cette ère-là. Et puis il l'a déjà dit, Jeremy Corbyn, il ne sera pas à la tête du Labour pour les prochaines grandes échéances électorales. Il a juste simplement dit qu'il assurera la transition pour mettre en œuvre justement un processus de désignation d'un nouveau leader pour conduire le Labour vers des ciels plus cléments dans les élections à venir.
Alors, les personnes les plus critiques disent qu'il veut aussi abattre ses cartes et mettre ses jokers en place avant d'être sûr de pouvoir partir. Que ce soit, le corbynisme n'est pas forcément mort au sein du Labour. Est-ce que, avant de partir d'ailleurs sur ce qui a fait que les conservatives ont gagné, est-ce qu'on peut regarder un petit peu en détail ce qui a fait que le Labour a perdu ? Est-ce que c'est vrai de dire que le Labour a juste pas trouvé sa place dans les cerveaux britanniques parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé leur place dans ce qu'ils appellent le manifesto ? C'était très compliqué de voir, de comprendre ce que le Labour voulait. Il voulait surtout pas d'une élection Brexit, pas Brexit. C'était pas pour eux un référendum numéro 2. Est-ce que c'était une erreur? Mais eux étaient plutôt coincés quand même, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a énormément de circonscriptions qui étaient tenues par des parlementaires Labour qui avaient voté Leave. Et là, ça compliquait les choses, parce que eux, ils étaient vraiment cette ambivalence entre le Brexit et l'élection principale.
Oui, c'est une débâcle. Je réinsiste sur le mot de résiduel. De débâcle. C'est une débâcle pour le Labour. Il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est effectivement le fait que jusqu'au bout, il y a un flou qui était entretenu par Jeremy Corbyn sur le Brexit lui-même. C'est-à-dire, si Labour remportait ces élections générales, qu'est-ce qui se passait? Il y avait cette renégociation de l'accord de divorce, puis l'organisation d'un autre référendum. C'est-à-dire, et on le redit, il n'y avait pas l'acception du respect de la parole donnée par rapport au choix souverain du peuple britannique.
Il faut bien se mettre à contrario, les conservatives avaient un slogan de 4 mots, « Let's get Brexit done ».
Exactement, non, mais c'était clair. Plus qu'en fait le fait de ne pas respecter la parole du peuple britannique, c'est le fait que d'un côté les conservatives avaient, voilà, moi mon programme, il est entièrement axé sur si je remporte ces élections, je ferai en sorte que le Brexit soit réalisé. A contrario, Jeremy Corbyn, on n'avait pas une idée très claire de ce qu'il allait faire sur le Brexit, on savait juste quelles seraient potentiellement les prochaines étapes, renégociation du traité, organisation potentielle d'un nouveau référendum, mais on n'avait pas de vision politique sur le Brexit lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le programme qui était vu comme beaucoup plus radical et moins fédérateur. Clairement, c'était plus de dépenses publiques pour Jeremy Corbyn. Et ça a fait peur à l'électorat britannique.
Les nationalisations. Il y a ce mot nationalisation qui a... Dans une économie française, on sait que ça fait un petit peu peur, les mots nationalisation, mais dans une économie anglophone, britannique, ultralibérale comme elles peuvent l'être, nationalisation, c'est la chasse aux sorcières.
C'était Jeremy Corbyn, c'était, faut le dire, pour nous dire, c'était une promesse de près de 500 milliards d'euros de dépenses publiques dans son programme pour les 5 prochaines années. Je veux dire, c'est énorme ce chiffre-là. Parce qu'on sait très bien que l'argent de la dépense publique, in fine, c'est le citoyen qui paye. Donc c'était très bien, enfin, c'était un axe de gauche, hein, de dire qu'il fallait plus de services publics, garder ce bijou royal qu'est le NHS, c'était très bien. Mais la manière dont c'était apporté par Jeremy Corbyn dans ces temps troubles d'incertitude sur les marchés économiques, d'incertitude sur les travailleurs, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon tempo pour ce message. Et puis, donc il y a eu ce flou autour de la solution de Brexit, ce mauvais tempo par rapport aux solutions proposées quant à l'économie britannique, et je dirais la troisième raison de ce fiasco du Labour au Royaume-Uni, c'est la personnalité même très controversée du personnage lui-même, Jeremy Corbyn, qui clairement n'a pas réussi à faire le ménage dans ses troupes, et il y a notamment eu toutes ces accusations de connivence avec des sphères antisémites autour du Labour qui n'ont pas plu, pas seulement... aux communautés concernées, mais qui n'ont pas plu à une partie d'un électorat travailliste attaché aux notions même de respect de la dignité humaine, respect des personnes, lutte contre le racisme, etc. Donc il y a ces trois facteurs-là, ces trois choses qui ont fait que la campagne travailliste n'a pas pris une seule fois depuis le début. Les sondages étaient toujours plutôt, même s'ils étaient moins clivants que ne sont le résultat, les sondages étaient quand même plutôt toujours favorables à Boris Johnson.
Absolument. Alors, parlons des vainqueurs maintenant, parce que bon, il y a quand même, on l'a dit, il y a des grands vainqueurs de cette élection, qu'on l'aime ou qu'on le veuille ou non. Boris Johnson est à nouveau Premier ministre. Il est sûrement là pour minimum 5 ans. On sait qu'en politique, il y a énormément de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, le terme est de 5 ans. Il semble avoir une autoroute devant lui. On en est où? Ça veut dire quoi pour le Brexit? Ça veut dire quoi pour l'Europe, ce qui vient de se passer à travers les 2-3 derniers jours?
Alors d'abord, ça veut dire, Christophe, que le Brexit se fera bel et bien. Ça, c'est le premier enseignement.
Donc là, il va tenir sa promesse. Let's get Brexit done. Done, tick. Ça va.
Alors,
fait.
How will it be done? Mais le Brexit se fera bel et bien. Ça, c'est la première chose. Boris Johnson, je crois qu'il a lui aussi envie de sortir de ce mauvais feuilleton européen, britannique, Brexit. Donc, respecter la promesse de campagne. Let's get Brexit done. La deuxième chose, c'est l'écart important avec le Labour, mais surtout c'est les mains libres, cette fois au Parlement, puisqu'il a une majorité absolue. Donc même s'il y a des désistements, même s'il y a des dissensions de son côté, il a une majorité absolue.
Il a de quoi devoir venir. Si on regarde un peu dans les provisions, il a un peu des économies, il a de quoi devoir venir.
Il a de quoi devoir venir, et surtout, en fait, les premiers conflits internes n'apparaîtront pas forcément quelques jours après les élections. C'est aussi l'avantage d'avoir remis en jeu la confiance devant le Parlement, c'est que maintenant qu'il a été élu et qu'une majorité a été élue, les premières oppositions normalement devraient pouvoir les maintenir, les contenir quelque temps. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, c'est les mains libres à Westminster pour mettre en place ce Brexit. Et puis la troisième chose, c'est par rapport à Bruxelles, par rapport au calendrier des négociations, il sera moins dépendant des hard Brexiteurs qui bloquaient aussi par rapport à Bruxelles les discussions par rapport aux modalités de ce Brexit. Donc il a les mains libres dans son camp avec ce qu'on pourrait appeler des soft Brexiteurs pour négocier dans le calendrier initialement prévu cet accord de Brexit d'ici à la fin janvier 2020.
Alors on l'a vu ça très clairement, que vous et moi on a regardé un peu les soirées électorales britanniques à la télé britannique, très clairement ça s'est vu bien entendu du côté Labour, du côté de l'opposition, parce que bon ils ont perdu leur place de discussion à la table, hein, c'est clair, ils sont plus là pour discuter quoi que ce soit au niveau du Parlement, en tout cas ils feront rien passer. Ce qui est plus intéressant c'est Nigel Farage également, qui lui a presque plié les armes de bataille. Il a dit clairement bon je suis pas content avec ce deal au niveau européen, mais OK, au moins Boris Johnson va faire le Brexit. Il a plus ou moins, Boris Johnson, gagné cette bataille aussi contre, vous le disiez, les hard Brexiteurs. Et ça, c'est important à comprendre, c'est qu'en fait, dans cette notion de main libre, il a les mains libres à gauche comme à droite.
Exactement, Christophe, il a les mains libres à gauche. Hein, on va pas tirer sur l'ambulance Corbyn encore plus longtemps, mais à droite, il a aussi les mains libres. Parce que Nigel Farage, mais on l'avait vu hein, avec le système majoritaire uninominal, à un tour, Nigel Farage n'a pas été capable d'envoyer un seul MP au Parlement. Et ce qui va surtout se passer aussi, et là où il va perdre son poids, c'est que quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, Nigel Farage perdra aussi son siège de député européen. Donc finalement,
je pense savoir ce qui va lui arriver à Nigel Farage. Je mets une prédiction tout de suite. Je le dis ici, si jamais ça s'avère être vrai, on dira Christophe, il l'avait dit avant. Moi, je pense qu'il va être nommé ambassadeur aux États-Unis.
Pourquoi pas, ce serait en tout cas, on sait qu'il s'entend très bien avec le président américain. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brexit Party, maintenant que Boris Johnson a les mains libres en interne, et une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, alors on va en parler, il y a encore cette période de transition, mais une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, Nigel Farage sur la scène locale, quand je dis locale, c'est à la fois nationale au Royaume-Uni et européenne, il n'aura plus vraiment de poids, il n'aura plus vraiment d'arguments à mettre dans la balance. Donc c'est intéressant parce que Boris Johnson, il avait gagné en amont sa bataille avec Nigel Farage, à la fois que ce dernier ne présente pas, vous rappelez, hein, de candidat là où les conservatives avaient des sièges déjà, pour ne pas risquer de perdre des voix et de faire que des Labour pourraient remporter des sièges. Donc ça, il avait gagné cette première bataille, et puis là, il gagne cette deuxième bataille parce que malgré ça, le parti du Brexit, hein, le parti Nigel Farage, n'a réussi à emporter aucun siège à Westminster et ne sera certainement plus représenté au Parlement européen une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne.
Ouais, tout à fait. Alors, on va parler également des autres petits partis, entre guillemets, petits partis. DUP, le parti unioniste de l'Irlande du Nord. On sait à quel point l'Irlande du Nord, c'était la clé pendant une grande discussion sous le gouvernement de Theresa May. Elle n'a jamais pu percer le problème de l'Union irlandaise. Le DUP a clairement perdu des voix, clairement perdu des sièges. Ils ont perdu la tête de leur parti qui n'est plus député. On en est où avec le DUP ? Parce que cette question de velléité européenne ou pas européenne par rapport à l'Irlande du Nord, ça veut dire quoi pour le pays ? Ça veut dire quoi pour Boris Johnson ? Est-ce qu'il avait fait des promesses sur lesquelles il peut parvenir ?
Alors je crois qu'il faut vraiment scinder deux partis nationalistes, ou en tout cas, il faut faire la différence entre deux zones géographiques. On en parlera dans quelques instants, il y a la question écossaise.
Hein, ouais, on va y venir dans quelques instants.
Un discours très, très intéressant de Nicolas Sturgeon. Et il y a de l'autre côté, effectivement, les petits partis qui n'ont pas tiré leur épingle du jeu de ces élections. Je pense à deux, je pense au DUP notamment, sur cette question irlandaise. Donc Boris Johnson, non seulement il a les mains libres à gauche, il a les mains libres à droite, mais il a aussi les mains libres sur ses franges nationalistes ou sur ses franges dans d'autres pays de l'Union, je parle de l'Union Jack, donc c'est une victoire à 100% de Boris Johnson.
Mais ce backstop, si on avait utilisé ce mot pendant longtemps, le backstop qui était la clé à la fois de la négociation européenne et britannique, est-ce que ce backstop va rester en place ? Est-ce qu'on sait déjà ? Est-ce qu'on pense déjà à des nouveautés par rapport à ça ?
Je crois que maintenant la question du backstop, maintenant que Boris Johnson a les mains plus libre pour mettre en œuvre cet accord de Brexit, je pense qu'on arrivera aussi à un soft backstop qui garantira d'un côté que l'Union européenne puisse vérifier à la fois les hommes et les marchandises et les flux de capitaux qui viennent par l'Irlande inonder le marché européen, Et pour l'Irlande slash Irlande du Nord, ça va être toujours cette question d'avoir une frontière non pas physiquement visible, mais d'avoir une frontière qu'on pourrait appeler, c'est pour ça que je disais soft, hein, souple, pour garantir l'intégrité territoriale de l'ensemble du territoire et pas remettre en cause les accords de Good Friday. À l'heure actuelle, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas encore eu ces discussions depuis les élections de dire ce qui va se passer de cette frontière nord-irlandaise. Ce qui est sûr, c'est que le DUP ne pèse plus dans la balance pour empêcher, comme il l'avait fait avec Theresa May, hein, c'était ça qui s'était passé avec le DUP.
Ils avaient les clés, ils avaient carrément les clés du Parlement.
Et c'était incroyable, parce que c'est-à-dire une formation d'une dizaine sur plus de 600 représentants était capable de bloquer un projet qui allait concerner l'avenir de l'Union et de l'Union européenne. Il n'y a plus ces clés-là. La question maintenant est l'incertitude, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est ce qui est, dans ce rééquilibrage finalement entre le DUP et le Sinn Féin, qui ne va pas siéger, hein, ils votent pour des députés mais qui ne siégeront pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est plus important. C'est compliqué de le dire actuellement, mais en tout cas, il y a une incertitude sur l'avenir de la question irlandaise avec ce rééquilibrage des forces DUP Sinn Féin.
Juste un dernier commentaire sur l'Irlande du Nord. Il y a pas mal d'analystes qui pensent que dans les années à venir, on va avoir des velléités indépendantistes du côté de l'Irlande du Nord pour pouvoir rattacher une seule Irlande, et qu'aujourd'hui, on peut presque penser qu'il y a la moitié d'un mandat qui pourrait dire, de ce côté-là, peut-être l'Irlande du Nord devrait être attachée à l'Irlande et non plus au Royaume-Uni. Ça se discute.
Ah bah ça se discute. C'est-à-dire que là, on arrive dans une configuration. Alors pour essayer de faire simple une situation extrêmement compliquée, on arrive à une situation où vous avez un Royaume-Uni qui va sortir de l'Union européenne, des pays rattachés au Royaume-Uni qui, eux, ne comprennent pas pourquoi eux devraient sortir de l'Union européenne.
On va en parler dans quelques instants avec notamment l'Écosse.
Coucou l'Écosse.
On va en parler dans quelques instants. Ne zappez pas.
Et des pays qui veulent fonder une sorte d'union dans l'Union, qu'on peut appeler britannique, dans un cadre où cette union sortirait de l'Europe. Donc c'est une situation compliquée, j'allais dire, avec trois tiroirs, Royaume-Uni, Union européenne, Écosse, Royaume-Uni, Union européenne, et Irlande, Irlande du Nord, Union Jack, Union européenne.
Absolument. Lib Dem, ils ont pris une claque aussi. La leader est partie, elle a perdu son siège, très peu, 149 voix, je crois, ou 153 voix d'écart avec le SNP. Donc c'était un siège en Écosse. Ça fait partie du raz-de-marée jaune dont on va parler dans quelques instants. Toujours est-il que les Lib Dem, qui eux étaient ouvertement le parti anti-Brexit, qui eux voulaient révoquer l'article 50 et rester intégralement dans l'Europe, ça n'a juste pas mordu du tout. Et out.
Oui, c'est dommage parce que finalement, les Lib Dem par rapport au Labour, par rapport à la gauche, eux avaient un programme plus clair.
Qu'est-ce qui leur a manqué, justement? Est-ce qu'ils ont été gênés par, justement, on revient sur eux, mais par le fait que les Labour n'étaient pas vraiment clairs, donc du coup, ça faisait une sorte de tampon où ça compliquait toutes les choses, donc du coup, c'était plus simple d'aller avec le Brexit. Ils ont eu du mal à percer.
En fait, les Lib Dem, ils n'ont pas réussi à capter l'essentiel du vote Remain, donc de personnes, de citoyens qui auraient aimé que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. C'est véritablement un problème de campagne politique. C'est-à-dire qu'il y a un vote qui était identifié de gens qui voulaient rester dans l'Union européenne que les Lib Dem n'ont pas réussi à capter. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça partait quand même d'un projet extrêmement compliqué. Parce que eux, c'était pas simplement on allait redemander au peuple ce qu'ils voulaient, c'était quand même aller contre une première décision démocratique souveraine du peuple britannique de sortir de l'Union européenne.
On allume la lumière, on oublie tout.
Exactement. Mais en fait, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment de faire cette campagne-là à ce moment-là.
Ou alors, ils l'ont pas assez fait en amont. C'est qu'en fait, ils sont arrivés dans une campagne avec ce message, mais c'était peut-être il y a 2 ans qu'il fallait commencer à enfoncer le clou.
Ah bah oui, alors, si la question c'est de savoir est-ce qu'entre septembre dernier et décembre, il y avait eu le temps de faire changer l'opinion publique par rapport à cette question, c'est évident que c'est non. C'était trop tard. La vraie question, c'est pourquoi pendant ces 2 ans d'atermoiement, les Lib Dem n'ont pas été capables de faire entendre une voix beaucoup plus claire sur « voilà notre projet » pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. C'est ça le véritable problème, c'est pas les derniers mois de campagne. C'est pourquoi pendant ces 2 ans, il n'y a pas un parti capable non pas d'hésiter, mais d'avoir un programme clair sur non, le Royaume-Uni, pour X, Y, Z, doit rester dans l'Union européenne.
Il n'y a pas eu un let's get the Brexit undone.
Mais encore une fois, c'est, voilà. C'est compliqué parce que c'était quand même créer un programme politique basé sur le non-respect du choix souverain du peuple britannique. Donc, de toute façon, le pari, il était compliqué. Là, la question, c'est comment ça se fait que...
Enfin, on a vu pire en politique, hein, comme programme. Hein.
Oui, non, mais on a vu pire. Mais la question, c'est pourquoi le Lib Dem n'a pas réussi à siphonner les voix travaillistes qui sont allées à droite, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein.
Absolument.
Il faut aussi le dire pour nos auditeurs, c'est que Boris Johnson, il a réussi aussi à siphonner des voix de circonscription historiquement travaillistes.
Mais on parle même plus travailliste. Voilà, on parle même plus qu'historique. Il y a des circonscriptions comme la circonscription de Tony Blair, par exemple, qui n'a jamais de toute l'histoire voté un conservateur en place. Ils ont toujours voté un Labour de toute l'histoire. Et là, le conservateur est passé haut la main.
Oui, mais c'est ça en fait. C'est pourquoi les Lib Dems n'ont pas réussi à capter cet électorat-là. Je crois que voilà, c'était compliqué parce que c'était quand même une élection sur la question. Pas de savoir si on faisait ou pas le Brexit, mais comment on faisait le Brexit. Et dans ce cas-là, les Lib Dems étaient complètement hors jeu, puisque eux n'étaient pas dans le spectre de, en tout cas pas dans les champs de réponse. Hein, c'était on ne fait pas le Brexit. Ça c'est la première chose. Et puis dans ces moments aussi un peu chrysogènes, c'est compliqué de confier les rênes du pouvoir à un parti qui n'est pas habituellement un parti, j'allais dire, de gouvernement. Alors quand je dis de gouvernement, c'est pas qu'il ne participe pas à un gouvernement, c'est un parti qui a la majorité au sein d'un gouvernement, au sein d'une chambre.
Parce qu'ils l'ont été au gouvernement. Hein, sur,
oui, oui. Ils ont été au gouvernement, mais ce que je dis, c'est un parti qui n'a pas une majorité au gouvernement, ce qui est le cas des Lib Dems. C'est comme la question, je vais faire une analogie pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est comme confier au centre, non pas à Macron, mais au centre historique en France, le Modem ou l'UDI, les rênes d'un gouvernement. Ben, ça ne s'est jamais vu. Ça a toujours été un parti allié, un parti support. Ben, c'est ce qui s'est passé. Je m'arrête dans la métaphore parce qu'il y a tellement de différences. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé aussi au Royaume-Uni. C'est compliqué dans ces moments d'extrême tension, chrysogène, de donner sa confiance à un parti qui a finalement moins d'expérience de mener une majorité à Westminster en l'occurrence.
Absolument, allez, on vous l'a promis depuis le début, on va parler de l'Écosse, mais avant de parler de l'Écosse, on va écouter une partie du discours de Nicola Sturgeon.
The Prime Minister, let me be very clear. This is not simply a demand that I or the SNP are making. It is the right of the people of Scotland. And you, as the leader of a defeated party in Scotland, have no right to stand in the way. The people of Scotland have spoken. It is time now to decide our own future. Thank you very much indeed.
Voilà le très bon, d'ailleurs, je vais le dire ouvertement tout de suite, le très bon discours de Nicola Sturgeon, mot fort, direct, avait un en frontal contre Boris Johnson. Pour elle, Boris Johnson n'a aucun mandat de discussion, de décision au sein des frontières de l'Écosse. C'est plutôt direct.
C'est un discours extrêmement puissant. Nicola Sturgeon, c'est quand même une personnalité qui mène bien sa barque.
On comprend bien qu'avec les femmes écossaises, faut pas les déranger.
C'est une personnalité qui mène bien sa barque depuis quelques temps. C'est un score en hausse pour le SNP écossais. Et puis, c'est une manière aussi de dire, dans des mots très simples, Boris Johnson, vous avez les clés. Vous avez eu les clés pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et mettre en place le Brexit. Mais ce n'est pas à vous de décider du sort futur de l'Écosse avec la majorité que je viens d'obtenir justement en Écosse.
Mais elle joue la fibre nationale des Écossais. Elle dit à Boris Johnson, vous n'avez pas à décider pour les Écossais, c'est moi, c'est nous ensemble les Écossais qui allons décider pour notre futur. Pourquoi allez-vous nous sortir de l'Union européenne dans laquelle on veut rester ? Elle renforce le mandat qu'elle a eu, parce qu'il faut rappeler qu'elle a eu 48 sièges sur 59. C'est un vrai raz-de-marée jaune. 48 sièges sur 59, c'est énorme pour un pays comme l'Écosse.
Ah, mais c'est un meilleur score que précédemment pour le SNP, pour Nicola Sturgeon. Et surtout, c'est finalement prendre un peu Boris Johnson par le cou en lui disant qu'il ne sera pas capable, au vu de ce score, de refuser à l'Écosse de décider lui-même de l'avenir qu'il veut au sein ou en dehors, hein, puisqu'elle ne dit pas qu'elle veut que l'Écosse soit en dehors de l'Union européenne ou au sein de l'Union européenne, mais elle dit en tout cas, c'est aux Écossais, par la voie référendaire, de décider si vous sortez de l'Union européenne, ce que eux, les Écossais, veulent faire par rapport à l'Union européenne. évidemment, elle avance ses billes en pensant que, en étant assez assertive et disant que les Écossais sûrement ne voudraient pas sortir de l'Union européenne. Là, la question, ça va être quel va être le rapport de force entre Nicolas Sturgeon et Boris Johnson pour que ce dernier concède à Nicolas Sturgeon un référendum écossais sur la question de l'avenir de l'Écosse au sein de l'Union européenne.
Alors, il faut bien expliquer que ce référendum ne peut pas avoir lieu sans l'accord du Parlement britannique et sans l'accord donc du gouvernement, donc de Boris Johnson. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment offrir ça aux Écossais ou pas ? Lui, il a déjà dit que c'était une chance dans une génération et que la chance était passée et que la prochaine chance, ce serait dans la prochaine génération. Bon, ils ne vont pas risquer la guerre civile, hein, c'est clair. Jusqu'où ça peut aller, ça ? Parce que ça peut aller très loin. Ça peut aller devant certaines cours de justice et ça peut durer longtemps.
Alors, moi, je vois ça en deux temps, si vous voulez, Christophe. Je pense qu'entre maintenant, dans le calendrier du Brexit, entre maintenant... Le moment où Boris Johnson va remettre devant Westminster l'accord, le bill, l'accord de Brexit et la sortie du Royaume-Uni fin janvier 2020, à mon avis, il ne se passera rien du côté écossais.
Mais elle avance ses pions.
Elle avance ses pions. Mais par contre, dans la période de transition, il faut aussi le rappeler pour nos auditeurs, hein, c'est-à-dire que le Royaume-Uni sortirait de l'Écosse, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne. Ce serait acté fin janvier 2020, mais il y aurait une période de transition d'un an ou de 11 mois jusqu'à fin décembre 2020 pour négocier véritablement les modalités, etc. C'est à mon avis pendant ce laps de temps, pendant ces 11 mois, pendant cette année, que Nicolas Sturgeon a intérêt, elle, en parallèle, de faire avancer ces négociations, en tout cas de mettre une pression, parce qu'elle pourrait très bien, justement avec ses décisions devant les cours de justice, bloquer ce processus de transition, ce que Boris Johnson ne voudrait pas, et en concession, lui, pourrait ouvrir la porte à un référendum écossais avant, comme vous l'avez justement dit, qu'une prochaine génération n'advienne en Écosse. Donc à mon avis, c'est pendant la période de transition de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, entre fin janvier 2020 et fin décembre 2020, que Nicolas Sturgeon pourrait faire pression sur le gouvernement conservatif pour un référendum écossais sur le rattachement de l'Écosse à l'Union européenne.
Est-ce qu'elle peut mettre de la pression via l'Europe ? On va venir dans quelques instants sur l'Europe et les réactions européennes. Mais est-ce qu'elle, Nicolas Sturgeon, peut retourner vers l'Europe et dire, essayer même de faire un deal avec l'Europe en disant, OK, si nous on part du Royaume-Uni, est-ce qu'on peut avoir un fast track pour retourner en Europe ou est-ce qu'on doit joindre la ligne derrière la Serbie, derrière des pays qu'on même pas, on en a parlé auparavant, des pays avec lesquels on veut même pas discuter en Europe, hein, l'Albanie ou la Macédoine du Nord. Mais est-ce qu'elle aurait pas tendance à vouloir essayer ça avec les dirigeants européens ? Et est-ce que les dirigeants européens peuvent se risquer à un jeu comme ça ?
Alors, je crois qu'il y a deux réponses à votre question pour changer un peu, Christophe. Par rapport à la Serbie, par rapport à l'Albanie, par rapport à toutes ces velléités de pays de l'Est ou ex-pays soviétiques de rentrer en Union européenne, je ne crois pas que ce soit un élément de comparaison avec l'Écosse. Parce qu'il y a un passé, il y a une histoire qui est différente, il y a même un partage de valeurs certainement qui est...
On peut même un partage de lois. Hein. Ils ont été au sein de l'Europe pendant longtemps.
Pour moi, ce ne serait pas ça l'élément bloquant du point de vue européen. L'élément bloquant, ce serait plus les étincelles que ça pourrait faire d'autres velléités.
Vous pensez à la Catalogne ?
Je pense à la Catalogne, Christophe. J'ai lu votre... Vous avez deviné, pensé. Les étincelles de velléités indépendantistes que ça pourrait créer au sein de pays historiques de l'Union européenne, je pense notamment à la Catalogne. Et c'est ça,
donc là,
à mon
du coup, il y aurait un veto espagnol, forcément sur quelque chose comme ça. De principe, juste pour éviter qu'on embrase la chose, on irait vers un veto espagnol.
Je crois que ce n'est pas le moment pour l'Union européenne de prendre le risque de ce jeu-là. Il y a la Catalogne qui est un cas médiatique connu, mais vous savez jamais quand on ouvre la boîte de Pandore ce qu'il peut y avoir derrière.
La Savoie, l'Alsace,
la Bretagne. Non, mais je veux dire, dans plein de pays européens. Et donc à mon avis, il serait plutôt là le point bloquant pour l'Union européenne.
D'accord. Allez, pour conclure, les réactions européennes, je pense qu'au niveau européen, on est plutôt satisfait. Simplement, on n'est pas forcément d'accord avec le résultat, mais on est satisfait qu'il y ait juste un résultat. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait un résultat une avancée. Aujourd'hui, c'est vu à Bruxelles. D'ailleurs, il y a un conseil européen, on va en parler, mais c'est vu aujourd'hui comme une avancée.
Oui, alors, avant de parler des Européens, on va parler de la réponse en écho au Let's Gets Brexit Done de Boris Johnson par Donald Trump, qui lui a dit « Looking like a big win for Boris in the UK ». Donc, à un slogan simple, répond une constatation simple du président américain. Pour les Européens, clairement, c'est un peu l'eau tiède hein, en termes de réaction, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à embraser la machine et à faire de l'ingérence dans l'élection britannique. Donc, ça va être des choses assez consensuelles. J'ai sous les yeux la déclaration de Merkel qui dit « Je me réjouis de la poursuite de notre coopération pour l'amitié et un partenariat étroit entre nos deux pays ». Vous voyez, donc c'est des commentaires, c'est vraiment de l'eau tiède. Hein, on prend acte et on félicite Boris Johnson de ce résultat pour mener. Voilà.
Voilà, rien à dire.
Pour l'instant, en tout cas, il y a l'allié américain qui, lui, se réjouit de ce résultat-là.
Mais justement, là, est-ce que ça, justement, un message comme celui de Donald Trump peut vraiment donner des signes avant-coureurs sur la direction que la Grande-Bretagne va prendre, à savoir de dire on va peut-être accélérer le Brexit parce qu'on a certaines garanties de l'autre côté de nos amis américains qui pourraient nous aider si on arrive à sortir d'un Brexit, si on arrive à acter ce Brexit plus rapidement. Est-ce que c'est ça une des solutions de Boris Johnson ?
Ça peut être une solution de Boris Johnson. Alors après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que quand il sort de l'Union européenne, si une simple sortie ferait qu'il serait soumis, le Royaume-Uni serait soumis aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. Mm-hmm. Donc avec des tarifs pas du tout avantageux, avec des barrières tarifaires, douanières, etc. Donc ce qui va se passer, comme dans tout, pour tout pays, c'est des négociations d'accords bilatéraux ou avec certaines organisations des accords multilatéraux pour, quelles seraient justement ces barrières douanières, tarifaires, quelles seraient les lois qui régiraient le commerce entre ces deux ensembles. Donc Boris Johnson, il sait qu'il a l'allié américain qui a envie d'avoir un deal parce que notamment il est en difficulté par rapport à l'Europe, par rapport à la menace du géant chinois, etc. Donc l'allié américain, il sait qu'il est derrière lui.
Pour l'instant, hein, parce que l'allié américain peut aussi vite sauter. Il y a un impeachment, il y a des choses qui peuvent bouger de ce côté-là aussi.
Pour l'instant, mais en tout cas, il l'a avec lui. On l'a vu hein, pendant ces dernières élections britanniques, l'ingérence d'une certaine façon de Donald Trump dans cette campagne interne. La question, il y a deux choses. C'est d'abord, il va falloir négocier des accords bilatéraux avec tous les pays et l'Union européenne incluse. Et c'est ça aussi un des enjeux, c'est-à-dire que faut pas qu'il y ait, l'idée pour les Britanniques, c'est de pas non plus avoir une espèce de zone de flottement entre le moment où ils sortent de l'Union européenne et le prochain accord qui sera négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc c'est s'assurer que ça soit mis en place. Et deuxièmement, et c'est ça qui est un petit peu pour l'instant compliqué à prévoir, c'est que des accords de libre-échange, ça se négocie pas en 6 mois, ça se négocie pas en 1 an. C'est des années de négociations, c'est des rounds de négociations. Donc si demain vous avez un politique qui vous dit c'est pas grave, on sort d'une structure politique, on sort d'un ensemble politique parce que dans 3 mois on aura négocié un accord bilatéral de libre-échange avec ce pays-là, c'est faux.
Il vous ment, c'est pas possible.
C'est pas possible, c'est pas possible. On le voit en ce moment avec l'accord bilatéral entre l'Union européenne et l'Australie par exemple.
D'ailleurs deux entités qui veulent travailler ensemble, ça prend des années.
Ça prend des années.
Toutes les deux sont motivées pour travailler ensemble, ça prend des années.
Voilà, exactement, même quand les deux sont plutôt... Mais il y a des choses qui bloquent, les appellations d'origine contrôlée par exemple, c'est quelque chose qui bloque entre l'Union européenne et l'Australie. Donc on peut très bien présager qu'il y aura aussi des éléments bloquants, et d'autant plus dans ce contexte difficile Brexit ou bientôt post-Brexit, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
D'accord, on peut le dire, affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
On peut le dire.
On peut le dire.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.